RCF.
RCF, Fabrice Gironnet.
18h10, vous écoutez RCF en FM et en DAB+, c'est l'heure du 18-19 régional avec Alexis Claudretz.
Que le temps passe vite, déjà à la fin de la semaine, ce vendredi 18h10, 19h, on est ensemble pour vous accompagner sur RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes, RCF Champagne-Ardennes en DAB+, avec au programme ce soir des nouvelles de notre diocèse. On sera évidemment avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, l'archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, mais on ira également dans le diocèse de Châlons à la rencontre de l'abbé Thibault-Marie Ruel qui a été affecté à l'espace missionnaire du Pertois depuis le 1er septembre. On parlera histoire avec Suip 14-18, l'histoire vivante de la Marne au temps de la Grande Guerre. Évidemment, à 18h30, vous avez rendez-vous avec l'information à l'intérieur de votre journal régional. Dans quelques instants, il nous attend en ligne. C'est le professeur Jacques Cohen que vous retrouverez pour sa chronique d'actualité. Il reviendra notamment sur le séisme qui a touché le Maroc il y a quelques jours. Et puis, vous en avez pris l'habitude depuis la rentrée sur RCF dans le magazine régional. On va à la rencontre de vos maires près de chez vous, dans la Marne et des Ardennes, direction le 08 ce vendredi. Avec Régis Depaix, qui est le maire de Montcornet, ce sera tout à l'heure, aux alentours de 18h20. Voilà pour le sommaire de cette émission. Nous, comme promis, on commence avec le professeur Jacques Cohen, qui nous attend. Il trépigne derrière la ligne, derrière le téléphone. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Et vous voulez revenir sur un événement qui a touché, qui a marqué le monde entier, en tout cas ce tremblement de terre au Maroc, et nous parler de la logistique des catastrophes. Professeur Jacques Cohen, pourquoi ce choix aujourd'hui ?
Eh bien parce que il y a une illusion dans l'opinion publique de penser que les catastrophes, c'est une affaire médicale, voire à la limite une affaire de charité. C'est pas du tout ça, et les choses doivent être prévues pour fonctionner. Et les catastrophes, c'est un problème de logistique. Et la logistique, c'est d'accéder aux lieux. Alors c'est donc de dégager les routes, mais auparavant, ça peut être des accès en hélicoptère quand sont des zones isolées. C'est l'électricité, mais c'est surtout l'eau. L'électricité, ce sont des groupes électrogènes, mais ce qui est bien plus vital, c'est l'eau. Car il faut apporter ou restaurer de l'eau propre, et il faut éviter l'eau sale. C'est-à-dire que les épidémies ne sont pas des cadavres, c'est l'eau. C'est l'eau et les saletés apportées par le balayage que souvent se représente dans les catastrophes, ou par les survivants. Alors, ce n'est pas dire pour autant qu'il n'y a pas de rôle pour les ONG. Par exemple, l'eau, il faut la contrôler. Or, d'avoir des stations, ce que j'avais fait avec Médecins du Monde, par exemple, il y a de nombreuses années au Honduras, avoir des stations capables de vérifier si l'eau est à nouveau potable ou pas, ou d'assurer sa potabilité, ce sont des choses qui sont dans les cordes de certaines ONG à condition de mettre un minimum de technicité. Mais globalement, ce sont des choses que des États doivent faire. Et il faut de même pouvoir éviter que les ruptures de stations d'épuration ou d'évacuation conduisent à des contaminations de la population. Et l'eau, c'est vital parce que l'eau ne va pas s'en passer longtemps. On peut retarder la nourriture d'un jour ou deux sans trop de problèmes, mais pas l'eau. Donc l'essentiel des catastrophes, c'est d'assurer la restauration du circuit de l'eau en amont et en aval. Alors, il y a ensuite bien d'autres choses. Bien sûr qu'il y a donné à manger, mais il y a d'abord à donner à loger, c'est-à-dire soit de mettre en place des tentes ou autres, de chauffer, parce que les catastrophes se produisent pour la moitié en été, pour la moitié en hiver, bien sûr, et d'avoir les moyens d'assurer les conditions de survie. Puis après, bien sûr, là, il y a la reconstruction, et là, c'est pas du tout la même chose. Ce sont des investissements lourds et qui demandent une planification et non pas une distribution anarchique, ce qui est typiquement ce que doivent faire les États. Alors, est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'activité médicale? Si, pas tellement ailleurs de le sang, il y a un petit peu de chirurgie, mais c'est bien rare, en catastrophe. Ce qu'il y a comme activité médicale, surtout pour les ensevelis, ce sont les dialyses rénales, parce que les Crohn's syndrome comportent des insuffisances rénales, et il y a souvent une grande insuffisance d'installation de dialyse permettant de faire passer le cap aux gens qu'on a dégagés des décombres. Ça, on peut effectivement prévoir. Mais tout ça, ce sont des éléments de logistique relativement lourdes. Ce n'est pas de la bonne volonté individuelle, laquelle peut bien sûr trouver à s'appliquer ultérieurement quand on constate que les gens sont démunis et se souviennent déjà qu'ils l'étaient déjà et qu'ils le sont à nouveau et bien plus après la catastrophe. Donc vous voyez, le raisonnement, j'allais dire commun, de penser que c'est d'abord une question de médecins, de secouristes, de sauveteurs, de chiens, ça c'est très rare. c'est les situations où ça peut être utile, et c'est dans les 3, 4, 5 premiers jours maximum. Mais il y a bien d'autres choses à faire pour éviter qu'une catastrophe ne conduise à des décès secondaires en nombre bien plus important à partir de toxi-infections alimentaires, par exemple, et de l'eau contaminée.
Justement, Jacques Cohen, puisque vous parlez de choses plus importantes à faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont, j'allais dire, les bons réflexes?
Eh bien, d'abord, les réflexes, ils doivent être préventifs. C'est une question de protection civile qui, selon les pays, sont cinquième roue du carrosse ou un élément très important. Il y a des pays où les ministères des situations d'urgence sont bien plus importants que les SAMU. Chez nous, c'est un peu le contraire. Donc c'est une question d'infrastructures développées, de stocks mises en cocon, parce que par exemple, les tentes, on ne va pas se mettre à les coudre et à les fabriquer à la dernière minute, et d'avoir des plans et des planifications qui tiennent compte des ressources locales et de la possibilité d'y intégrer des ressources extérieures. La solidarité internationale n'est pas effectivement quelque chose à rejeter. Mais il faut d'abord un plan local d'envergure pour obtenir une action coordonnée et non pas d'avoir des volontaires errant un petit peu n'importe où sur le terrain avec une activité très peu productive. Donc tout cela, c'est d'abord une planification d'État de la protection civile qui doit être organisée, des stocks prépositionnés, même en sachant qu'ils ne servent qu'une fois tous les 10 ou 20 ans.
Malheureusement, cette catastrophe, maintenant, elle a eu lieu. Il y a encore des secousses qui sont ressenties. Comment on agit concrètement maintenant sur le terrain?
Bien, je pense que la première phase de reconnaissance est terminée, que le dégagement des victimes dans des constructions où il y a très peu de dalles en béton ou de structures métalliques, donc où tout est en miettes, et malheureusement les miettes sont lourdes sur les victimes, il n'y a plus grand-chose à faire. Et bien sûr, il faut sortir les corps, mais l'essentiel, comme je vous ai dit, c'est de restaurer la chaîne de l'eau propre et l'alimentation électrique. Après avoir bien sûr restauré les voies de communication, parce que si on peut au début distribuer de l'eau et des choses d'urgence par hélicoptère, ce n'est pas une solution durable. Après, il y a la question de la reconstruction, et il y a celle, par exemple, puisqu'on est sur un tremblement de terre, des normes sismiques. Malgré les apparences, les normes sismiques du Maroc sont assez élevées. Elles ne sont pas toujours respectées, comme partout, mais elles sont assez élevées. En revanche, ce qui est la même chose qu'ailleurs, c'est que tout ce qui est ancien n'y répond pas. Ou plutôt n'y répond pas, sauf à l'épreuve du temps. Parce que des tremblements de terre, il y en a régulièrement. Et par exemple, toute bâtisse du 12e, 13e, 14e siècle qui a résisté au tremblement de terre de Lisbonne de 1720, elle a été, si j'ose dire, testée sur place. Sauf que aussi les bâtiments vieillissent et la question peut être un peu différente. Donc le respect des normes sismiques est important. Une des choses les plus catastrophiques, ce sont les maisons en terre dont le rez-de-chaussée est creusé par les boutiques. C'est-à-dire qu'elles ont un étage souple, comme on dit, qui malheureusement est en bas et qui donc fait que tout ce qui est au-dessus s'écrabouille dès que l'étage souple finit par céder. Donc là aussi, il y a non seulement des normes de construction à voir, mais également des normes de transformation ou des normes de réhabilitation, consolidation, de façon à éviter toute cette famille de dégâts possibles qui sont essentiellement ce qui a tué au Maroc dans le sud à partir de Taroudan.
Évidemment, avec vous, professeur, on parle du bâti, on a aussi parlé des vies juste avant. Il semblerait que pour cette intervention, ces interventions en tout cas, les secours soient arrivés trop tardivement, qu'il y ait eu des petits blocages. Comment vous analysez, vous aussi, cette situation à ce niveau-là?
C'est très dur à dire. D'abord parce qu'il y avait déjà eu une catastrophe à Hiroshima il y a quelques années qui avait déclenché la mise en place d'un plan d'intervention de l'État chérifien qui semble avoir été mis en œuvre tout à fait convenablement. On entend beaucoup de bruit au nord de la Méditerranée sur les gens qui n'ont pas été accueillis. Je pense qu'il y a, outre quelques exploitations politiques de part et d'autre, une incompréhension. Il ne faut pas gaspiller de moyens pour ce qui ne va pas servir. Et la logistique dont je vous ai parlé, qui est à développer, c'est la logistique prioritaire. On n'a pas à ce moment-là de moyens à distraire pour accueillir, j'allais dire, des touristes humanitaires. J'ai travaillé à plusieurs reprises avec des pays qui ne souhaitaient pas voir d'humanitaires étrangers sur leur sol, mais qui étaient tout à fait désireux que l'on planifie avec eux les plans destinés à intervenir dans telle et telle circonstance, et qui ensuite les ont mis en place, et les ont même mis en œuvre, parce que le temps a passé avec succès dans des cas sur lesquels j'avais travaillé, ce qui est toujours une récompense considérable, de voir qu'on ne s'est pas, j'allais dire, décarcassé pour rien, et que donc effectivement, la mise en place d'une logistique humanitaire est plus importante que de faire débarquer, de nouveaux humanitaires. C'est ce qui peut avoir conduit à quelques incompréhensions.
Eh bien, merci, professeur Jacquouen, de nous avoir éclairé sur la situation sanitaire au Maroc suite à ce tremblement de terre. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine. Plus d'informations en attendant, ça se passe sur votre blog, jhmcohen.com. À bientôt, Jacques.
À bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
La suite de ce magazine régional, c'est votre maire qui nous parle depuis Montcornet dans les Ardennes. C'est avec vous, Jean-Pierre.
Régis Depay, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire de Montcornet dans les Ardennes. C'est l'occasion pour nous de bien connaître votre commune. Pouvez-vous nous la présenter, cette commune de Montcornet? D'abord dans le département des Ardennes, bon, on la connaît bien, mais il y a nos amis rémois qui ont peut-être du mal à la situer.
Si vous voulez, Montcornet se situe au nord de Charleville, à une dizaine de kilomètres. C'est une petite commune rurale en bordure de forêt. Voilà, elle comporte 350 habitants et avec une population relativement résidentielle, avec des tranches d'âge à peu près équilibrées entre 0-20, 20-40 et 40-60, à peu près un tiers chacune d'elles.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, vous êtes maire depuis longtemps à Montcornet, Régis Depay?
Je suis maire depuis 1990, élu au conseil municipal depuis 1983.
Mais je crois que c'était quand même un peu dans votre ADN. Ça vous passionne, cette responsabilité, cette mission de maire. D'ailleurs, vous êtes président de l'association des maires dans les Ardennes.
Tout à fait, je suis président de l'association des maires depuis 2008, effectivement, qui regroupe très grande majorité de communes, hein, près de 90%. Et puis les 8 intercommunautés du département, c'est une forme de passion. Vous savez, on ne s'engage pas dans la fonction d'élu local, je pense, par hasard. C'est aussi le choix de vouloir servir, en tout cas essayer de servir au mieux, l'intérêt public.
Alors, comment peut-on caractériser aujourd'hui Montcornet, ses activités, ses habitants? Et puis, on va l'évoquer tout de suite, même si on y reviendra. Quand on parle à Montcornet, on pense au château de Montcornet, parce que c'est quand même le bel endroit de Montcornet. Tout est bien dans le village, mais le château, ça a quand même une importance.
Évidemment, le château a une grande importance, j'en parlerai en conclusion. C'est vrai que la partie du bâti, c'est un bâti ancien, avec quand même un développement, puisque en 1990, on était 220 habitants, aujourd'hui on est 350. On a accueilli depuis, évidemment, de nouveaux habitants, et on est ravis de l'avoir fait. On a accueilli le centre Albatros, où il y a quand même 47 résidents. Voilà, donc une population qui travaille, hein, puisque le taux de chômage est de 3,8 sur la commune, avec, je le disais tout à l'heure, une répartition équilibrée des tranches d'âge entre les 0-20, 20-40 et 40-60, avec un tissu associatif. On a 5 associations dans le village, donc pour une petite commune,
c'est bien.
Très bien, hein,
très
évidemment.
Bien.
Une association de jeunesse, une association de chasse, une association du château, une association du village historique, une association d'animation générale. Je n'oublie pas non plus l'association des parents d'élèves, puisque on a une école en regroupement pédagogique avec la commune de Cliron, deux classes à Montcornet, une classe à Cliron, et on a mis en place depuis 1992 un syndicat d'accueil aujourd'hui avec 7 communes qui gèrent le périscolaire et la restauration.
Voilà, on peut dire aussi,
aux parents.
Je vous interromps, Régis Depay, mais on peut dire aussi que c'est une chance, parce que bon, d'une part, vous n'êtes pas très loin de Charleville-Mézières, mais d'autre part, vous avez à Montcornet un cadre de vie assez exceptionnel, quoi. On pense par exemple à la période Covid, des gens qui avaient un bout de jardin, qui pouvaient respirer, ça n'a pas de prix.
Absolument.
Ça n'a pas de prix.
Absolument, c'est un cadre nature très important, hein. On est vraiment à la frontière entre la plaine et la forêt, donc les gens peuvent à la fois finalement bénéficier de ce cadre magnifique de la forêt d'Ardennes, et puis en même temps, comme vous le disiez, avoir la possibilité d'avoir un jardin et de pouvoir, dans le cas malheureux de cette pandémie, de pouvoir effectivement avoir un jardin, avoir un espace d'agrément, en tout cas pour permettre d'avoir géré au mieux cette période.
Alors d'un mot, parce que le temps passe très très vite avec vous, Régis Depay, le maire très souvent sollicitait, d'ailleurs il y a des maires dans certaines communes qui parfois ne veulent pas renouveler leur mandat parce qu'ils disent on est trop, voilà, on est débordé, on est assailli.
C'est vrai que vous avez raison, la fonction de maire est exigeante, la fonction d'élu local est exigeante, comme on le dit assez souvent, on est à portée d'engueulade, mais en même temps c'est ce qui fait la richesse de la fonction, c'est-à-dire vous êtes confronté directement aux soucis quotidiens de chacune et de chacun, et avec la volonté et la mission en tout cas de répondre à cette problématique-là. C'est à la fois évidemment très mobilisateur, mais à la fois très enrichissant.
Alors, une question bon, un peu provocatrice, hein, Régis Depé. Je la pose à la plupart des maires, parce qu'avec les communautés de communes, et puis ensuite les agglomérations, l'agglomération Ardennes Métropole, les regroupements ont sans doute modifié le rôle du maire. Mais alors, êtes-vous encore le patron chez vous, comme on dit familièrement ?
Bon, je suis peut-être pas très bien placé, puisque comme vous le savez, je suis président de la communauté de communes Vallée-Plateau d'Ardennes. Néanmoins, je vais essayer de répondre le plus équilibré possible. Les compétences sont transférées à la communauté de communes par les communes. Alors évidemment, nous, on a des taux de transfert qui sont entre 45%, autour de 45%. Donc ça laisse encore une place importante de gestion des affaires communales, près de 55% si on veut être un peu arithmétique. Et évidemment, là, le maire a encore évidemment beaucoup d'actions à mener. Et d'autant plus qu'il siège au sein du conseil communautaire. Les communautés de communes, ce n'est pas des ovnis, ce sont un établissement que les communes ont décidé collectivement de créer.
Pour que ça soit clair, s'il y a une décision qui n'est pas validée quand même par le maire, le maire a quand même une sorte de droit de veto quand même sur certaines décisions.
Alors, pas immédiatement un droit de veto. En tout cas, il a la possibilité, le pouvoir de s'exprimer au conseil communautaire. En règle générale, quand même,
ça se passe bien.
Les autres élus n'ont pas vocation à aller contre
la vie du maire. Oui,
donc
oui.
C'est une discussion qui est voilà, arbitrée.
Comme il nous reste, je vous presse un peu, Régis Depé, parce qu'il nous reste une minute et demie, donc il faut caser un certain nombre de sujets. Le patrimoine, c'est très important.
Voilà, le patrimoine, c'est très important. Je le disais en introduction, un bâti ancien au cœur du village, construit autour du château, autour de l'an 1000. Hein, donc c'est, même s'il a beaucoup souffert évidemment après la Révolution et puis en termes de démantèlement pour reconstruire des maisons, pour reconstruire d'autres choses sur le territoire. En tout cas, il a une grande richesse qui a été mise à jour grâce à l'abbé Lucigny qui est décédé aujourd'hui, mais l'association perdure, l'organisation perdure, elle est de plus en plus dynamique et il y a beaucoup de choses. C'est ce qui nous a permis aussi au niveau de la commune d'engager un grand chantier qui est le village historique, la reconstitution de villages de 5 époques différentes, gaulois, gallo-romains, mérovingiens, carolingiens et médiévales, dans l'idée de se dire, bah voilà, le site était occupé depuis la Gaule, l'apothéose c'était le château médiéval, et on va illustrer ce qui se passait avant, quels étaient les métiers, quels étaient l'architecture, comment les gens vivaient, quelles étaient leurs occupations et leurs animations.
Hein. On y reviendra, le temps est terminé, Régis Depé, je m'en vais un peu parce que le temps passe trop vite. On fera quelque chose de spécial avec vous dans le cadre du patrimoine. Merci d'avoir été avec nous. Régis Depé, maire de Montcornet, président de l'Association des maires des Ardennes. Au revoir, monsieur le maire, et à bientôt. Au revoir.
Au revoir à tous.
Merci Régis Depé, de nouveau maire que l'on retrouvera la semaine prochaine du côté des Ardennes ou de la Marne, évidemment, dans ce magazine régional. Et puis le 18-19 en Champagne, par contre, il continue encore ce vendredi avec le journal régional tout de suite sur RCF. Les titres de ce vendredi 15 septembre, retour sur la campagne pauvreté-précarité lancée par le Secours Populaire au début du mois dans un contexte compliqué, l'association entend résister. Le territoire de Châlons-en-Champagne se lance dans la ville connectée, objectif faire des économies d'énergie et réduire le plus possible les émissions carbone.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Ce samedi, à Charleville-Mézières est donné le coup d'envoi de la 22e édition du Festival mondial des théâtres de marionnettes. La fête va battre son plein dans les rues Carolo-Massérienne jusqu'au 24 septembre. À noter que mardi prochain, nous serons en direct dans ce magazine régional depuis le Festival mondial des théâtres de marionnettes sur la place Ducale. Ce sera une émission exceptionnelle. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous si vous voulez passer nous voir en direct. Eh bien, n'hésitez pas, le studio mobile sera là avec toute l'équipe pour vous accueillir. Le 7 septembre dernier, le Secours Populaire lançait sa campagne pauvreté-précarité. Quelques chiffres marquants selon un sondage Ipsos qui a interrogé 1000 Français et 10 000 Européens. 18% des Français vivent à découvert. 43% des sondés ont du mal à consommer des fruits. 43% des Européens ont peur de basculer un jour dans la précarité. Pour l'antenne rémoise, c'est 25% de familles en plus accompagnées entre janvier et juin 2023, soit un total désormais de 2000 familles et plus de 5000 personnes. Patricia Lecorvic, secrétaire générale du Secours Populaire de la Marne.
Oui, le besoin des personnes, évidemment, grandit parce que leur situation s'aggrave aussi, hein, évidemment. Elles sont confrontées à l'augmentation des factures, elles sont confrontées à la diminution de leur pouvoir d'achat, clairement, et elles ont de plus en plus besoin de notre accompagnement, ça c'est important. Et le secours populaire aussi, on est confronté à une augmentation, notamment des prix de l'alimentation et de l'énergie, ce qui nous pose dans des situations extrêmement difficiles. Par exemple, là, effectivement, on a été obligé de fermer notre chambre froide négative parce qu'il fallait qu'on fasse des économies, parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas forcément à payer l'énergie non plus au tarif où elle est aujourd'hui, hein, clairement. Hein. Le dispositif d'accompagnement et d'aide qu'on met en route aujourd'hui, il y a un vrai coût de fonctionnement, hein, qui est extrêmement important. Et oui, on a besoin de soutien, on a besoin de dons, forcément. Et en tout cas, nous, on est sur un positionnement de généraliste de la solidarité où, effectivement, la personne qui vient chercher aussi une aide alimentaire, on va travailler avec elle, on va l'accompagner fortement pour toujours rechercher l'autonomie des personnes, notamment par l'accès à la culture, l'accompagnement des enfants en difficulté scolaire, tout ce qu'on peut rencontrer pour aider la personne en fonction des difficultés qu'elle rencontre elle-même.
Les personnes aidées viennent chercher de l'aide, évidemment, mais aussi du réconfort et bien souvent souhaitent accompagner à leur tour. Témoignage.
Ça me porte quelque chose de bien aussi, surtout la nourriture que je viens chercher tous les vendredis. Et quand j'ai des problèmes financiers, de temps en temps, je vais voir des aides au secours populaire. Et quand même, j'ai de la solution, pas la totalité, mais quelque chose qui me porte un soutien moral et physique. Je toque la porte quand je suis trop bas et je m'arrive pas à sortir.
Concrètement, oui, ça devient de plus en plus dur. Surtout quand vous avez des enfants en bas âge, ça devient dur. On essaye de faire le mieux, quoi. Surtout que les enfants, ils sont pour rien. Ils sont petits, j'essaye pas trop de leur faire montrer, j'essaye de les occuper comme je peux. Mais avec ma situation, c'est difficile.
Une campagne lancée dans le contexte compliqué des Restos du Cœur qui ont annoncé un déficit de 35 millions d'euros. Côté Secours Populaire, on partage l'alerte.
On va résister. Ça, c'est une annonce, c'est clair. Le Secours Populaire résiste. Hein. Né en 45, le Secours Populaire est un enfant de la résistance. On porte des valeurs très fortes de ce point de vue-là et on lâche pas. On continuera à accompagner les familles. Ça, on l'affirme et on le réaffirme aujourd'hui. Après, c'est un combat. C'est un combat et on invite toutes les personnes, les gens de cœur, les collectivités, les partenaires à venir nous aider dans ce combat. C'est véritablement un combat qu'on va mener.
Patricia Le Corvic au micro de RCF Reims-Ardennes. À Reims, Transdev assurera lors des 6 prochaines années l'offre de transport, une nouvelle offre de mobilité qui devrait concerner 143 communes du Grand Reims contre 16 actuellement. Ce samedi est désigné comme étant le World Cleanup Day, traduction la journée mondiale du nettoyage. De nombreuses actions sont relayées un petit peu partout dans Champagne-Ardennes, mais vous pouvez aussi être le petit ruisseau qui forme une grande rivière par une action individuelle concrète de nettoyage de votre rue, du parking de votre résidence, par exemple. Voilà aussi comment participer à ce World Cleanup Day. Alors que l'efficacité énergétique et la transition écologique deviennent des priorités fondamentales, les villes de Châlons-en-Champagne, Saint-Martin-sur-le-Pré et Fagnières, associées à la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne, innovent en lançant un projet de territoire connecté d'ampleur inédite. Jacques Gesson, président de Châlons Agglo.
On a lancé une candidature il y a quelques années maintenant qui a abouti à l'attribution d'un marché au 1er juillet avec le groupement Bouygues. L'objectif, c'est justement d'améliorer la vie de nos concitoyens, de nos équipes aussi, par un système d'informatique assez poussé, une amélioration de l'éclairage public, une meilleure gestion de l'éclairage public, une meilleure gestion des bâtiments aussi, avec de nombreuses automatisations qui facilitera la tâche des uns et des autres et qui assure aussi une efficacité à 100% des possibilités, tant pour le chauffage que l'éclairage, que la gestion de la qualité de l'air. L'objectif, c'est d'investir fortement pour recueillir le fruit de ces économies générées par ces investissements. Donc, ce n'est pas des dépenses supplémentaires, ce sont simplement des dépenses qui sont accélérées pour recueillir le fruit le plus rapidement des économies possibles sur ces investissements. Faciliter, économiser et puis aussi avoir un bilan carbone meilleur puisque la plus belle des économies, c'est la non-consommation. Voilà, donc c'est important justement. Et plus encore dans le contexte actuel où l'augmentation, l'enchérissement des coûts énergétiques est très pénalisant pour les collectivités.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. 35,5 millions d'euros sont engagés pour réduire les factures. 79% de baisse pour l'éclairage public et 33% pour les bâtiments sont envisagés, sans oublier le plan zéro carbone avec une économie par an de 20 000 tonnes de CO2. Après une première fête à Luton, quartier de Reims organisé en 2022 qui avait réuni près de 800 personnes, la mobilisation est relancée pour ce samedi 16 septembre. De 15h à 21h, vous pourrez vivre un moment festif où chacun trouvera l'activité qui lui convient. Animation enfant, atelier, coin lecture, jeux anciens, maquillage et tatou, exposition photo, tournoi de pétanque, blind test, concert de duo Junker Vaillant à 19h30, buvette, bar enfant et petite restauration sur place. Tout le monde pourra s'amuser, quartier Luton à Reims ce samedi. Pour les amateurs de football, après la trêve internationale, retour au championnat pour nos équipes locales. En Ligue 1, Reims recevra Brest dimanche à 15h. En Ligue 2, 3 ira à Annecy samedi à 19h. Mais la nouvelle principale vient des Ardennes et d'en dehors des terrains, selon l'information révélée par nos confrères de l'Ardennais en début de soirée ce jeudi, qui a été relayé dans le journal du jour d'ailleurs de ce vendredi. Sedan pourrait s'appeler le CSSAM, Club Sportif Sedan-Ardennes Métropole. Relégué en Régional 3 pour des problèmes financiers, une fusion avec Prix-les-Mézières et Charleville-Mézières est envisagée, ce qui pourrait permettre à la nouvelle entité d'être en N3, voire en N2 dès la saison prochaine, si tout se passe comme prévu et ainsi de gagner quelques années avant de retrouver ce niveau semi-professionnel et à terme, pourquoi pas, le niveau professionnel. Ainsi se referme le journal. Le 18-19 en Champagne-Ardenne continue.
Le 18-19
tous les jours
sur RCF
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
Et nous nous dirigeons vers Suip pour la suite de cette émission au Centre d'interprétation Marne 14-18, un lieu qui vous transporte au cœur de l'histoire de la Grande Guerre. Un lieu à découvrir absolument, n'est-ce pas Jawed ?
Bonjour à tous. Eh bien Alexis, le Centre d'interprétation Marne 14-18 va bien au-delà d'un simple musée. Il représente une fenêtre ouverte sur notre passé, une porte d'accès à une époque cruciale de notre histoire. Lorsque vous visitez le Centre d'interprétation, vous parcourez les traces des soldats, écoutez leurs témoignages et ressentez l'émotion de cette période. C'est une expérience immersive que nous décrit Sarah Caramel, responsable du centre. Bonjour Sarah Caramel, vous pouvez un tout petit peu nous rappeler un petit peu c'est quoi le centre d'interprétation ?
Bonjour. Alors le centre d'interprétation, comme vous l'avez dit, est situé dans le village de Suip et il retrace l'ensemble du conflit mondial, c'est-à-dire de l'avant-guerre jusqu'à la reconstruction. Il est constitué d'un parcours de salles thématiques et en fait la particularité, c'est qu'il est vraiment à hauteur d'homme, c'est-à-dire qu'on a envie de plonger le visiteur vraiment dans cette période et se mettre à la hauteur des soldats, des femmes, des enfants, de tous ceux qui ont vécu cette période.
C'est vrai qu'on est dans ce qu'on appelle un moment très immersif dans cette guerre.
Exactement. Déjà, quand vous rentrez, vous choisissez un des acteurs de cette guerre, une personne qui a vécu le conflit. Vous allez avoir le début de son histoire à l'accueil et vous, au fur et à mesure que vous cheminez dans le centre, et bien vous allez pouvoir suivre cette histoire sur différentes bornes qui sont disposées à différents endroits.
Donc vraiment, on incarne en plus un soldat de cette grande guerre, quel que soit le pays ou le royaume qui peut représenter.
Ah, c'est beaucoup de soldats français. On a beaucoup de poilus, on a quelques Allemands et des femmes, souvent des infirmières ou alors des civils qui sont originaires de la région.
D'accord. Que vous disent un petit peu justement les visiteurs qui ont vécu cette expérience ?
En général, ils sortent assez ravis parce qu'ils ne s'attendent pas à voir un musée moderne, interactif, à Suip. Ça étonne en fait. Ils sont plutôt, ils sont très positifs en général quand ils sortent de leur visite et très contents.
Et puis je pense beaucoup d'émotions et des émotions fortes, je suppose.
Oui, parce qu'en fait aussi, en milieu de visite, vous êtes plongé dans une tranchée reconstituée. Donc vous montez à l'assaut. L'idée, c'est de monter à l'assaut en même temps que les soldats d'époque. C'est une salle où vous avez entendu des bombardements, des cris de soldats, et donc là, vous êtes vraiment immergé dans les combats de première ligne de l'époque.
Donc un grand moment intense à vivre lors de cette visite.
Exactement.
Bien évidemment, vous savez, c'est les journées européennes du patrimoine. Ce week-end, je sais que vous avez une toute petite particularité, un petit peu ce week-end-là.
Alors, ce week-end, on ouvre nos portes gratuitement à toutes les personnes qui ont envie de découvrir ce lieu. Alors souvent, pour les journées du patrimoine, ça permet aux locaux, vraiment aux gens qui sont du territoire, de venir découvrir le lieu que des fois ils ne connaissent pas. Souvent, on connaît très peu ce qui est vraiment autour de nous.
Et puis d'aller voir sur le site marne14-18.fr. J'étais donc avec Sarah Carmel, responsable du centre, qui nous a guidés à travers cette expérience. C'est une opportunité unique de venir explorer ce lieu riche d'histoire, de rendre hommage à ceux qui ont vécu la Grande Guerre et de comprendre le rôle fondamental de la Marne.
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le Centre d'interprétation Marne 14-18 de Suip propose des visites gratuites ce samedi de 10h à 18h. Merci Jawed Saoudic pour cette immersion.
Le 18-19 sur RCF.
Le vendredi, on retrouve Mgr Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, mais aussi président de la Conférence des évêques de France. L'entretien, c'est avec Jean-Pierre Benoît.
Mgr Éric de Moulin-Beaufort, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et vous voilà de retour en direct dans ce studio
et
de
oui,
RCF.
Et avec joie, enfin.
Oui, parce qu'il y a eu la période de vacances.
Ah, quand même.
Et là, c'est pour vous, Monseigneur. Je vais être un peu familier, mais c'est votre rentrée, vous êtes arrivé avec un cartable, etc. C'est la rentrée.
C'est la rentrée, en effet. Je suis heureux de reprendre le chemin du studio de RCF le matin, le vendredi matin. Alors, mais une fois sur deux, car j'alternerai avec Mgr Véteux.
Alors il faut dire, Mgr, que l'actualité est tragique sur le plan international, c'est ce qui s'est passé au Maroc.
Oui, puis en Libye aussi, parce qu'on parle beaucoup du Maroc,
également.
On oublie aussi la Libye, qui est un pays avec lequel, un pays encore plus compliqué. Ben voilà, des drames comme ça, il y en a, malheureusement, il y en a souvent, hein, des tremblements de terre, des inondations. Mais chaque fois, il nous rappelle à la fois notre fragilité humaine devant la nature, dans laquelle il faut que nous nous fassions une place, en quelque sorte. Et puis aussi, surtout, le fait que nous formons une seule humanité, parce que, ben voilà, nous nous sentons touchés par ce qui est arrivé au Maroc, aux Marocains. Nous sommes touchés par ce qui arrive aux Libyens. Et on pourrait multiplier comme ça les exemples. Et ça nous rappelle que nous sommes une seule humanité, que nous avons à nous entraider, que nous nous organisons évidemment pour la vie normale, mais qu'il y a des moments où de catastrophes où il faut que nous aidions encore plus les uns les autres. Voilà, encore une fois, ça nous fait éprouver que même si nous appartenons à des pays différents, à des entités politiques différentes, à des cultures différentes, à des religions éventuellement différentes, eh bien, nous formons une seule humanité, nous sommes frères et sœurs les uns des autres, et il faut stimuler cette fraternité-là.
Dans l'actualité diocésaine, mais au-delà, cette semaine a été marquée, c'était il y a 6 jours, ça semble déjà loin, l'ordination épiscopale de Mgr Étienne Véteux. Ce fut un moment assez exceptionnel, tout le monde l'a reconnu.
Oui, je dois dire que depuis une semaine, j'ai rencontré pas mal de gens dans le diocèse, à l'extérieur du diocèse, qui ont suivi éventuellement grâce à YouTube la célébration, et tout le monde était très impressionné, très heureux, à la fois quelque chose de simple et en même temps de très solennel, de très profond, avec, il faut bien le dire, les magnifiques prestations de notre maîtrise, hein, qui nous a vraiment donné des chants formidables et très très bien chantés. On ne peut que s'en réjouir et féliciter tous ces, à la fois c'est le cœur d'homme et aussi des enfants qui ont à peine eu une semaine pour répéter. Sandrine Lebec a fait un travail avec eux, avec tous ces enfants, formidable. Et de fait, c'était vraiment très beau. Tout le monde a été très ému. Donc nous sommes heureux d'avoir maintenant un évêque auxiliaire opérationnel. Et puis je dois dire, j'ajoute, pour ma part, j'étais ému de voir, de recevoir dans la cathédrale l'archevêque de Canterbury, et aussi un archevêque métropolitain orthodoxe, mais surtout l'archevêque de Canterbury, qui est quand même la tête de l'église, des églises anglicanes. Voilà, il a passé la soirée, la nuit à l'archevêché. Nous avons petit déjeuner ensemble le lendemain. Il parle très bien français, ce qui facilite beaucoup les contacts. Mais c'est un beau signe des temps où nous sommes quand même, que ce rapprochement des églises, cette fraternité ordinaire, cette amitié ordinaire entre chrétiens de différentes confessions. Et j'étais heureux qu'au moment où Mgr Véteux a mentionné la présence des représentants écuméniques, il y a eu des applaudissements, acte vraiment spontané de l'Assemblée, de même que quand il a mentionné la présence d'une partie de sa famille qui est juive, ça a été aussi très applaudi. Voilà, il me semble que nous dépassons beaucoup de douleurs de l'histoire et c'est réjouissant.
On aura l'occasion, donc, comme vous l'avez dit, un vendredi sur deux, de retrouver Mgr Veiteux en direct sur RCF. Et puis, c'est l'occasion pour vous d'avoir un collaborateur très très proche qui va quand même peut-être vous soulager d'une certaine façon, vous aider et puis peut-être faire des choses que vous ne pouviez pas faire complètement.
Ben voilà, moi j'ai commencé en étant archevêque ici avec Mgr Feuillet qui était là, qui était bien présent et qui faisait beaucoup de choses. Depuis qu'il est parti, bien ces choses-là, avec le père Bethler, vicaire général, nous avons essayé de les suivre, mais nous avons fait ce que nous avons pu, et on sent quand même au bout de deux ans que les choses ne se font plus assez bien. Un certain suivi, certains encouragements, certaines présences. Donc je suis heureux que nous puissions comme ça démultiplier la présence, disons, épiscopale dans et la présence du diocèse par conséquent dans toute la région.
Dans quelques jours, dans 8 jours, à Marseille, le pape François rencontre, dans cette rencontre avec les pays de la Méditerranée, aussi d'une certaine façon les évêques de France, mais même si ce n'est pas un rassemblement pour la France. Bien sûr, vous en êtes, Monseigneur.
Oui, je fais partie de ceux qui doivent y être. Je serai intégré à la suite du pape, d'ailleurs, à partir du moment où il sera là. Je devrais lui adresser quelques mots à la fin des rencontres méditerranéennes. Mais je crois que c'est un beau moment. Hein. Comme j'ai souvent dit, Marseille, c'est... D'une part, c'est disons Marseille, la Provence, c'est par là qu'est arrivé le christianisme en France, enfin en Gaule. C'est ce qu'on raconte, en tout cas, avec l'arrivée de Marthe, Marie et Lazare qui seraient venus sur une barque à Sainte-Marie-aux-Mets. Lazare était le premier évêque de Marseille. Quoi qu'il en soit de la réalité de cette légende, ça nous indique, si vous voulez, que l'évangile vient par les amis de Jésus. Et voilà, dans l'évangile, les amis de Jésus, c'est Marthe et Marie qui reçoivent familièrement Jésus chez eux. Finalement, c'est ça, être chrétien aussi, ça nous indique quelque chose d'important. Et puis Marseille, c'est la ville qui concentre toutes les grandeurs et tous les défis terribles de la ville moderne.
On aura donc l'occasion de vous retrouver jeudi.
Oui.
Jeudi soir dans le 18-19.
Très bien.
On vous enregistrera un tout petit peu avant. Et puis donc le vendredi, on retrouvera Mgr Étienne Veiteux.
Qui se préparera à partir pour Marseille. Donc,
qui se préparera également à partir.
Sa valise.
Voilà, il viendra à Marseille vous rejoindre. Alors justement, si on regarde un peu l'agenda beaucoup plus loin, on va aller très très loin, au mois de mai. On se souvient du souffle des JMJ, de cette jeunesse extrêmement vivante. Vous avez été à ses côtés pendant 15 jours. Que va-t-il se passer au mois de mai, Mgr Éric de Moulin-Beaufort?
Voilà, comme vous le savez, nos diocèses ont besoin de vocations sacerdotales et religieuses, il faut bien le dire. Alors, Jésus a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Donc nous allons, nous les évêques en tout cas de la province, prier. Nous avons décidé chacun de traverser notre diocèse alors dans la dernière, entre le 28 avril et le 4 mai, ou 29 avril et 4 mai. Donc chaque évêque va marcher dans son diocèse, et puis bien viendra marcher qui veut. On fait une sorte de pèlerinage voilà, pour confier à Dieu tous les territoires que nous traversons, toutes les personnes, toutes les communautés que nous pourrons rencontrer à cette occasion. Et demander au Seigneur de faire se lever les vocations dont nous avons besoin, de ministres ordonnés, peut-être aussi de ministères laïcs, etc. Enfin voilà, on va prier pour cela. Et puis, tous les évêques convergeront à Reims le 4 mai, et avec tous ceux qui voudront bien nous rejoindre, et nous entrerons dans la ville, et puis nous aurons un temps d'échange, etc. Et puis, voilà, une messe un peu festive de clôture de tout ça.
Le samedi 4 mai.
Le samedi 4 mai, donc je donne déjà rendez-vous à tous ceux qui voudront sur le chemin. Alors le chemin n'est pas encore complètement défini, mais il va l'être. Tous ceux qui voudront me rejoindre sur le chemin, ne fût-ce que pour une demi-heure ou une heure, ben, seront les bienvenus, évidemment. Et puis, le 4 mai, tous ceux qui voudront venir pour porter avec nous cette intention. Ça vient juste avant notre pèlerinage diocésain qui aura lieu à Béron, donc il ne faut pas que ça... Une chose ne remplace pas l'autre, mais ce sera une belle occasion quand même pour cette cause importante des vocations dans nos églises.
Si on feuillette un peu l'agenda des jours prochains, dimanche, il y a une rencontre à Neuvisy, Monseigneur.
Oui, je rencontrerai dimanche à Neuvisy les AFC, Association Familiale Catholique, toute une journée. C'est la première fois que j'y rencontrerai comme tel. Que j'y rencontrerai comme tel, à proprement parler, donc je suis heureux de pouvoir le faire. et apporter aussi un encouragement aux familles qui ont de rudes tâches aujourd'hui. Enfin, ça n'a jamais été si simple que ça d'être une famille et d'être une famille sur le cœur de Dieu. Donc, si je peux les encourager, je serai heureux de le faire.
Alors, dans l'actualité, on aura l'occasion de revenir sur votre agenda. En tout cas, merci d'avoir été avec nous.
Merci Jean-Pierre, merci à toutes et à tous. Bon samedi, saint dimanche à tous et puis bonne semaine prochaine.
Merci, à bientôt.
Merci Monseigneur, merci Jean-Pierre. On part dans le diocèse de Chalon dans quelques instants.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Avec un nouvel invité donc du diocèse de Chalon, c'est l'abbé Thibault-Marie Ruel, originaire de Troyes, Marnais de cœur depuis 40 ans dans l'espace missionnaire Brie. Après plusieurs années de salarié dans les forêts, l'abbé Thibault-Marie Ruel est entré à la communauté du Verbe de vie, c'était en 2004, puis a été ordonné prêtre le 16 mai 2015 à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Depuis le 1er septembre 2023, l'abbé Thibault-Marie Ruel est affecté auprès de l'espace missionnaire du Pertois en résidence à Vitry-le-François. Retour sur le parcours de Thibault-Marie Ruel.
Bonjour, notre invité aujourd'hui, le père Thibault-Marie Ruel, nouveau prêtre sur le secteur du Pertois. Il est à Vitry-le-François. Thibault-Marie, bonjour.
Bonjour Gérald.
Thibault-Marie, donc nouveau arrivé à Vitry-le-François pour quelques années. On va essayer de reprendre un peu votre parcours. Vous êtes un gamin de Troyes.
Je suis originaire de Troyes, effectivement, du côté de mes parents qui sont au bois. Mais à l'âge de 8 ans, je suis arrivé dans la Marne. Voilà, et donc depuis maintenant plus de 30 ans, presque 35 ans, je suis, même plus que ça, 40 ans, je me reconnais Marnais.
Marnais par le fait que vous avez débuté à Cézanne ?
Même avant, à Vers-la-Gravelle, pas très loin de Vertu, pendant 2 années, et puis ensuite à Cézanne, effectivement, où j'ai grandi et j'ai été scolarisé jusqu'en 3e.
Après, votre passion vous fait conduire vers la forêt ?
Exactement. Comme j'étais pas très, très doué pour les hautes études, et que je suis plutôt quelqu'un de manuel, de technique, après ma 3e, je suis retourné dans l'Aube, à l'école forestière de Crosny, dans la forêt de Chaours, où j'ai passé 6 années de formation pour devenir technicien forestier.
Et cette formation vous conduit bien sûr vers un boulot ?
Voilà, j'ai travaillé ensuite pendant 5 ans dans la gestion des forêts. J'avais fait un petit temps à l'ONF à Saint-Dizier. Et puis ensuite, j'ai été embauché dans un organisme privé qui gère des forêts pour le compte de propriétaires sur toute la Champagne Ardenne, un petit peu la Meuse, la Côte d'Or également. Voilà, donc c'était du conseil et puis de la maîtrise d'œuvre de projets dans leur domaine forestier.
On va passer du professionnel à la vie chrétienne, donc fils de famille chrétienne.
Exactement, donc famille pratiquante, où on allait à la messe tous les dimanches en famille. Nous étions 5 enfants, nous sommes toujours 5 enfants, mais chacun a pris un peu son envol désormais. Et voilà, j'ai fait le parcours traditionnel, on va dire, depuis le baptême comme bébé jusqu'à l'âge de la confirmation. Et puis après même des engagements dans le scoutisme, dans la préparation à la confirmation des jeunes, des préparations au baptême également. Voilà, toujours beaucoup de joie de me donner au service de l'Église, dans paroisse ou dans d'autres associations diverses.
Et puis un jour, vous sentez que vous avez une vocation en vous ?
Alors je me suis effectivement posé la question à un moment de la vie monastique. Je suis allé pour le passage à l'an 2000 chez les moines de Cîteaux, où j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je m'étais posé la question de rentrer au monastère, mais très rapidement, j'ai vu que ce n'était pas ça. Mais j'étais toujours dans des grands questionnements de savoir qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi. Est-ce que je dois devenir prêtre, me marier? Et puis, c'est finalement en rencontrant la communauté du Verbe de vie en 2004 où j'ai vu effectivement qu'on pouvait être à la fois frère, prêtre, vivre une vie communautaire au service de l'annonce de l'Évangile, au service du Christ. Et je suis rentré du coup en 2005 dans la communauté du Verbe de vie.
Cette communauté vous a fait traverser le monde ?
Alors effectivement, j'ai beaucoup bougé. J'ai démarré d'abord en Belgique, où j'ai passé 2 années. J'ai été ensuite envoyé 1 année en Afrique, au Mali, à Bamako. Et puis je suis revenu 1 année en Suisse pour faire le noviciat. Et puis au terme duquel, eh bien, comme je portais ce désir du sacerdoce, j'ai été envoyé à Toulon, dans le Var, où j'ai donc intégré le séminaire de Toulon, tout en ayant une insertion dans une paroisse à côté de Toulon, à Lavalette du Var, pendant donc 6 années. Et puis ensuite, après mon ordination, le 16 mai 2015, donc je suis retourné en Suisse, où j'ai passé 5 années, voilà, dans une des maisons du Verbe de Vie, comme prêtre. Et puis en 2020, là, j'ai à nouveau changé pour rejoindre la région parisienne, où j'étais vicaire en paroisse, la paroisse de Sceaux, où j'ai passé 2 années, tout en ayant la responsabilité de la pastorale des jeunes pour la communauté du Verbe de Vie.
Oui, alors effectivement, le côté jeune, pastoral des jeunes, vous connaissez bien.
Oui, assez bien, parce que quand on est jeune, je ne sais pas pourquoi dans l'église, mais souvent on se retrouve en service et en mission auprès des jeunes. Donc que ce soit dans le Verbe de Vie ou en paroisse, j'ai souvent été impliqué effectivement dans la pastorale jeune. Les festivals des ados du Verbe de Vie, les festivals des jeunes, les camps Roca Beach. En fait, dès qu'il y avait des missions qui concernaient les jeunes, je faisais partie de l'équipe envoyée.
Et à Vitry, est-ce que vous savez déjà quelle sera votre mission ?
Alors, en partie, après je vais découvrir au fur et à mesure, mais je sais déjà que je vais être impliqué beaucoup dans la dynamique missionnaire, sur tout l'espace missionnaire, avec notamment le suivi des fraternités missionnaires, l'impulsion, donner l'élan, le dynamisme pour annoncer l'évangile, aller à la rencontre des baptisés non pratiquants, c'est-à-dire ceux qui ne viennent plus dans nos églises, puisqu'ils ne viennent plus, c'est à nous d'aller au-devant, d'aller à leur rencontre, et puis à la rencontre aussi de ceux qui ne sont pas baptisés, parce que beaucoup aujourd'hui se posent des questions, et alors je pense moi spécialement les jeunes, qui se posent des questions sur le sens de la vie, de l'existence, le sens de l'existence de Dieu, et nous avons un message à leur annoncer, une bonne nouvelle à leur partager, et donc j'aurai beaucoup de joie à travailler dans cette mission.
Est-ce que vous êtes réjoui de revenir dans la Marne et dans le diocèse de Chalon ?
Écoutez, oui, je suis très heureux de retrouver mon diocèse d'origine et puis de voir ici cette belle équipe que nous formons de prêtres ici à Vitry, de voir cette petite fraternité que nous sommes au service de l'ensemble de l'espace missionnaire. Et donc c'est une joie pour moi qui sort d'une communauté de voir que finalement je ne serai pas tout seul dans cette mission, mais qu'on la vivra à plusieurs entre prêtres.
Eh bien Père Thibaut Marie Ruel, merci, et puis au plaisir de nous rencontrer tout au long de vos années à Vitry-le-François.
Merci Gérald.
Un entretien réalisé par Gérald Gaillet de la rédaction de RCF Cœur de Champagne. La messe de rentrée pour les paroisses Saint-Charles de Foucault, Sainte-Marie de la Côte de Vergeois, Saint-Pierre des Monts-Torlor avec bénédiction des cartables aura lieu ce dimanche 17 septembre 2023 à 11h en la collégiale Notre-Dame de l'Assomption de Vitry-le-François. C'est aussi l'occasion de dire que de nombreuses messes de rentrée des établissements d'enseignement catholique sont organisées ce week-end. Ainsi se referme le magazine régional. Le 18-19 en Champagne-Ardenne, ça revient dès la semaine prochaine. Très bon week-end en compagnie des programmes de RCF. Prenez soin de vous.